Qui a inventé le temps ? Qui a inventé la seconde ? Vous savez, celle qui vous fait louper le train, ou celle qui dure une éternité quand on plonge ses yeux dans ceux de l'être aimé. Une seconde est-elle vraiment une seconde dans notre univers ?
Alors, une seconde, c'est un intervalle de temps, hein, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, selon la théorie d'Einstein, en fait, cette seconde, elle passe pas à la même vitesse selon la personne, donc comment la personne bouge, et selon l'endroit où la personne se trouve dans l'univers. Donc Einstein nous dit que le temps, il n'est pas absolu.
Microsciences. Un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et dans un moment de science pure suspendu dans l'espace. C'est Camille Bonvin, professeure au département de physique théorique à l'Université de Genève, qui va prendre quelques minutes pour nous expliquer que le temps est un chewing-gum dans lequel nous sommes tous empêtrés. Et dans lequel même Einstein était empêtré.
Et là, je ne parle pas justement de ce sentiment que parfois on a l'impression que le temps se rallonge ou qu'il se ralentit. C'est vraiment quelque chose d'objectif, quelque chose de mesurable. Einstein nous dit qu'on ne vieillit pas de la même manière en fonction de la vitesse à laquelle on bouge et en fonction de l'endroit où on est dans l'univers.
Albert Einstein était un habitant de la Terre, né en 1879 et mort en 1955. Qu'est-ce qui lui a pris d'imaginer que le temps n'était pas immuable ?
Donc en 1905, il a construit une théorie qui s'appelle la relativité restreinte. Et cette théorie, elle est basée en fait sur deux postulats. Le premier postulat, c'est que les lois de la physique sont les mêmes dans n'importe quel référentiel inertiel. Donc si on est par exemple dans un train qui bouge à une vitesse constante, hein, pas un train qui accélère ou un train qui ralentit, vraiment un train qui bouge à une vitesse constante, qu'on fait n'importe quelle expérience physique, les résultats vont être les mêmes que si on est immobile à quai et qu'on fait la même expérience. Si vous êtes dans un train qui est à quai, immobile, et puis vous regardez le train de l'autre côté, puis tout à coup vous vous dites « Ah, je suis en train de partir !» Puis après vous regardez un petit peu mieux, puis vous voyez que non, c'est l'autre train qui part dans l'autre direction. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le principe de relativité, le fait qu'on n'arrive pas à faire la différence entre nous qui bougeons par rapport à un autre objet ou cet autre objet, cet autre train qui bouge dans l'autre direction par rapport à nous. Donc ça, c'était le premier postulat d'Einstein.
Et je sens qu'il va y en avoir un deuxième.
Le deuxième postulat de sa relativité restreinte, c'est que la vitesse de la lumière, elle est constante dans le vide, elle est partout la même et surtout, elle est indépendante de la source lumineuse qu'il émet. Donc ça, en fait, ça découlait de Maxwell et des équations de l'électromagnétisme. Ça a été ensuite prouvé par l'expérience.
D'un côté, des trains qui bougent et dans lesquels on peut faire des expériences avec le même résultat que quand ils sont arrêtés, et on ne sait pas si on bouge ou pas. Et de l'autre, la vitesse de la lumière. Et entre les deux, Einstein.
La seule manière que ces deux postulats collent ensemble, que ça mène à quelque chose qui soit consistant, c'était en fait d'abandonner l'idée que le temps et l'espace étaient absolus. Donc ça découlait en fait de sa théorie, le fait que le temps puisse se dilater et que les longueurs puissent se contracter.
Et ça, ce sont les belles équations sur papier. La notion de vitesse, je vois, celle de distance aussi. Mais alors, pour le temps qui se dilate et qui se contracte ?
Alors, il y a tout un tas d'expériences, en fait, qui ont été montées pour montrer qu'Einstein avait raison. Peut-être une qui, pour moi, est la plus parlante, c'est de regarder le temps de vie des muons.
Les quoi ?
Les muons, en fait, c'est des particules élémentaires.
Elle a dit muons.
Donc, ça fait partie de tout cet ensemble de particules du modèle standard de la physique des particules. Après, c'est une particule qu'on ne connaît pas très bien, hein, vous avez peut-être pas entendu déjà parler d'un muon, parce que c'est pas une particule qu'on trouve régulièrement autour de nous, hein. Contrairement aux électrons ou bien aux protons et neutrons qui sont formés de quarks, dont on entend beaucoup parler, parce qu'en fait, c'est les constituants fondamentaux de nous-mêmes, de notre corps, de la Terre, de tout ce qu'on a autour de nous. Les muons, eux, on les rencontre pas souvent. La raison pour laquelle on les rencontre pas souvent, c'est parce que c'est des particules qui sont très instables. En fait, quand il y a un muon qui est créé, il va vivre seulement 2 microsecondes, ça veut dire 2 millionièmes de seconde, avant de se désintégrer dans une autre particule. Ces muons sont créés un peu partout, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils sont créés aussi dans l'atmosphère. Donc quand on a, par exemple, des sources lointaines hein, dans l'univers qui émettent des particules très énergétiques, qui voyagent à grande vitesse jusqu'à nous, ces particules, elles vont ensuite atteindre l'atmosphère, faire des collisions avec les molécules dans l'atmosphère. Et ça, par exemple, ça va créer des muons. Et ces muons, ils voyagent ensuite à grande vitesse jusqu'à nous.
2 millionièmes de seconde. C'est court, mais on a des outils pour mesurer ce temps très court. Et visiblement, pendant ces 2 millionièmes de seconde, le muon a un truc super important à nous dire.
Si la dilatation du temps n'existait pas, ces muons, on ne devrait pas les recevoir sur Terre. Parce que comme ils ont une durée de vie très très courte, juste 2 microsecondes, dans ces 2 microsecondes, ils ont le temps de parcourir à peu près 450 mètres. Or, ils sont créés à une altitude de 15 000 mètres. Donc on ne devrait jamais les voir. Ils devraient se désintégrer dans d'autres particules et on devrait voir ces autres particules. Mais si on met des détecteurs de muons, on se rend compte qu'on en reçoit beaucoup. En fait, on en reçoit 10 000 par mètre carré par minute sur Terre. Et ça, c'est à cause de la dilatation du temps. Parce que comme ils bougent très très vite, en fait, le temps passe beaucoup plus lentement pour eux. Quand dans leur horloge interne, il y a 2 microsecondes qui se sont passées, ben sur Terre, il y a un intervalle de temps 40 fois plus grand qui s'est passé. Et ça, ça donne le temps à ces muons, en fait, de parcourir ces 15 000 mètres depuis l'atmosphère où ils sont créés jusqu'à nous. Et c'est pour ça qu'on les détecte.
Le muon vit 2 millionièmes de seconde. Il va super vite. Et comme il va super vite, son horloge interne ralentit. De notre point de vue, il vit plus longtemps. On va reprendre. Je compte jusqu'à 2. On va dire qu'une seconde équivaut à 1 microseconde. 0, le muon naît. 1, 2, il meurt. Ça, c'est notre point de vue. Du point de vue du muon, ça donne ça. 1, 2. Oui, mais c'est quand même très abstrait un muon, non? On n'en croise pas tous les jours. Alors moi, madame tout le monde, comment je peux appréhender ce temps déformé? Je ne peux quand même pas coller une montre à un muon.
Donc les gens ont fait des expériences, ils ont mis des montres dans des avions, des montres très précises, hein, des montres atomiques, et puis ils se sont rendus compte, ils ont pu mesurer cette dilatation du temps. Alors bien sûr, elle est beaucoup plus petite que celle dont les muons font l'expérience, parce que selon la théorie d'Einstein, plus on bouge vite, plus la dilatation du temps va être importante. Donc les muons, eux, ils voyagent à une vitesse de 99,97% de la vitesse de la lumière, donc presque la vitesse de la lumière, et donc la dilatation du temps, elle est très très grande. Un avion, même un avion supersonique, il ne va pas voyager si vite, donc la dilatation du temps, elle est beaucoup plus petite, mais on a des montres suffisamment précises pour pouvoir mesurer cette dilatation du temps. Et on l'a fait et ça colle avec les prédictions d'Einstein.
Et à la fin de l'expérience, l'horloge de l'avion est en retard par rapport à celle qui est restée au sol. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça change vraiment quelque chose.
Cette dilatation du temps, on a besoin de la prendre en compte dans un système qu'on connaît tous très bien, qui est le GPS. Si on ne prenait pas en compte cette correction d'Einstein, en fait, les GPS ne marcheraient pas. Parce que le GPS marche en fait en synchronisant des horloges qui sont sur Terre avec des horloges qui sont dans des satellites. Et bien sûr, ces satellites, ils bougent par rapport à nous. Donc, il y a une dilatation du temps pour les montres qui sont dans les satellites. Et comment faire ensuite des différences de temps pour pouvoir savoir où on se trouve? Si on ne prenait pas en compte cet effet de la relativité restreinte, on ferait une faute et ça nous donnerait une imprécision, en fait, dans la mesure du GPS.
Une imprécision, c'est pas non plus la fin du monde.
Si on oubliait cette dilatation du temps, plus aussi l'effet dont on va parler plus tard, qui est lié à la relativité générale, on ferait à peu près une faute de 10 km par jour, ce qui est quand même pas négligeable.
Ah oui, pour trouver une adresse, 10 km d'imprécision, c'est pas mal quand même. Donc voilà, la relativité restreinte dérigidifie le temps. Le temps devient élastique, comme du chewing-gum. Mais alors, je ne sais pas si vous savez, mais non content de s'attaquer au temps, Einstein s'est aussi attaqué à la gravité. Et ça, c'est grave. La pomme de Newton, elle ne tombe plus.
La pomme, elle tombe toujours, heureusement. Hein. Mais la raison, en fait, pour laquelle elle tombe, elle est complètement différente dans la théorie d'Einstein. Donc, Newton nous dit que la pomme, elle tombe à cause de la force de gravitation de la Terre sur la pomme. C'est ça qui fait tomber la pomme.
La Terre attire la pomme.
La Terre attire la pomme, exactement.
Bon, bah alors tout va bien.
Alors que, selon Einstein, la gravitation, c'est pas du tout une force, mais c'est en fait une déformation de l'espace et du temps. Donc ça paraît un petit peu bizarre, mais on peut s'imaginer ça en voyant l'univers comme une énorme nappe souple. Et puis, quand on met un objet dans cet univers, par exemple, quand on a la Terre va en fait déformer cette nappe. Elle va créer une sorte de déformation, un peu comme un puits. Nous, on appelle ça, les physiciens, on appelle ça un puits gravitationnel.
Et moi, je vois ça quand je lance une balle sur mon duvet.
Ça va faire un petit peu un creux dans votre duvet. Et puis la pomme, ensuite, elle va ressentir ce creux, elle va sentir qu'il y a un creux, et puis elle va juste voyager de la manière la plus droite possible dans cet univers qui a des creux et des bosses. Et donc, quand il y a un creux, ben, la pomme, elle va tomber au fond du creux. Donc, elle tombe toujours sur Terre, mais pas parce qu'il y a une force qui l'attire, juste parce qu'elle ressent cette déformation de l'espace. Donc, c'est assez bizarre, mais c'est quelque chose qu'on arrive quand même à s'imaginer un petit peu intuitivement.
Newton et Einstein sont d'accord sur le sort de la pomme. Ça, c'est déjà bien. Mais, il y a un mais. Cela va influencer le temps pour la pomme ou un truc comme ça?
Maintenant, ce qui est encore plus bizarre dans la théorie d'Einstein, c'est que la théorie prédit que non seulement l'espace est déformé, mais que le temps, il est aussi déformé. Donc au fond de ce puits, au fond de ce creux, le temps va passer plus lentement que si on est hors du puits gravitationnel.
Donc, la gravitation agit comme un frein sur le temps.
Alors, pour la pomme, en fait, au fur et à mesure qu'elle tombe dans le trou, le temps va passer de plus en plus lentement au fond du trou.
Le temps est élastique. Il s'étire plus ou moins en fonction de la vitesse ou de la gravitation.
Et ça, en fait, c'est un effet qui a été mis en lumière dans le film Interstellar, si vous l'avez vu. À un moment, il y a Cooper qui est sur une planète proche de ce trou noir gigantesque. Donc un trou noir, c'est très, très massif. Donc le temps passe beaucoup plus lentement proche du trou noir. Et du coup, quand il quitte la planète au bout de 7 heures, il y a 49 ans qui se sont passés pour sa fille qui est restée sur Terre. Et donc à la fin du film, quand il retrouve sa fille, elle est en fait plus vieille que lui. Donc ça a l'air d'un effet de science-fiction, mais en fait, c'est pas le cas. C'est un effet qui est réel. Et à nouveau, c'est un effet qui doit être pris en compte dans le GPS, parce que ces satellites, en plus de bouger par rapport à nous, ils sont à une altitude différente par rapport à nous. Donc dans ce puits gravitationnel, la Terre, elle est au fond, et puis le satellite, lui, il est un peu plus haut. Et donc, en fait, le temps passe un petit peu plus vite pour le satellite qui est plus haut que pour la montre qui est restée sur Terre.
Aujourd'hui, le temps passe plus lentement sur Terre que dans le ciel, à quelques kilomètres de la Terre. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Les horloges n'existaient pas au début de l'univers. Alors, comment savoir comment passait ce temps au passé? Vous me suivez?
Alors, c'est une excellente question. Hein. On peut se dire comment le temps passait il y a 5 milliards d'années, il y a 10 milliards d'années. Et en fait, le temps passait pas à la même vitesse dans le passé, parce qu'en fait, l'univers était plus dense dans le passé qu'il l'est aujourd'hui. On a cette théorie du Big Bang qui nous dit que l'univers a commencé dans un état très dense, très chaud, et puis à partir de là, il s'est mis à s'agrandir. Et quand il s'agrandit, forcément, il se dilue, en fait, parce qu'on a plus d'espace pour la même quantité de matière, donc l'univers devient de moins en moins dense. Et ça nous dit en fait que le temps passe plus rapidement aujourd'hui qu'il passait dans le passé.
Mais attendez, on n'a pas remonté le temps pour le savoir. Ce serait encore une théorie sur papier.
Alors, c'est pas si facile, hein, parce que clairement, on ne peut pas envoyer des montres dans les moindres recoins de l'univers pour savoir comment le temps passe ailleurs. On ne peut pas non plus envoyer des montres dans le passé pour savoir comment le temps passait il y a 10 milliards d'années. Donc, il nous faut une autre méthode, hein, si on veut comparer le passage du temps à différents moments et à différents endroits. Et pour ça, on peut regarder en fait la couleur de la lumière. C'était une idée du physicien Eddington qui s'est dit qu'on pouvait mesurer la distorsion du temps en regardant le rougissement de la lumière.
Alors, reprenons. La vitesse de la lumière est constante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de couleur?
Donc en fait, la lumière, c'est une onde hein, qui voyage dans l'univers à la vitesse de la lumière. Donc une onde, c'est un peu comme une vague. Et la couleur de la lumière, elle est liée à la fréquence. Donc ça veut dire à l'intervalle de temps entre deux crêtes de la vague. Et donc en fait, plus cet intervalle de temps, il est grand, plus dans le spectre visible, la lumière, elle va être rouge, plus l'intervalle de temps, il est petit, plus la lumière, elle va être bleue. Et donc maintenant, vous pouvez vous imaginer que si vous avez de la lumière qui est émise depuis l'intérieur d'un puits gravitationnel, par une galaxie qui est à l'intérieur d'un puits gravitationnel, le temps va passer plus lentement au fond. Et puis la lumière, quand elle sort, en fait, le temps va changer au fur et à mesure que la lumière sort. Et donc le temps entre deux crêtes va gentiment s'agrandir au fur et à mesure que la lumière sort de ce puits. Ce qui veut dire que la lumière va devenir de plus en plus rouge. Et donc en mesurant le rougissement de la lumière, on mesure en fait la distorsion du temps.
Le temps est mou, l'espace est mou. C'est dur à imaginer quand même. Mais c'est mou de la même façon. Pourrait-on comparer ces moultes mous ? Pour Einstein, l'élasticité du temps et de l'espace était identique. Mais en est-on sûr ?
Ce qu'on aimerait faire dans le futur, c'est mesurer cette distorsion du temps aussi à très grande distance, pour savoir si aussi aux distances cosmologiques, à l'échelle de l'univers, l'univers obéit en fait aux prédictions d'Einstein, aussi à ces grandes distances.
À ma gauche, Einstein et ses théories. À ma droite, des tas de physiciens avec des tas de théories. Et qui a raison alors ?
Les gens ne se sont pas arrêtés à Einstein, ils ont construit d'autres théories, des théories alternatives de la gravitation. Et dans ces d'autres théories, ce qui est intéressant, c'est que de manière générale, le temps et l'espace se déforment de manière différente. Parfois, le temps se déforme plus que l'espace, parfois l'espace se déforme plus que le temps. Ça dépend des théories. Mais ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que si on peut mesurer la distorsion du temps et la distorsion de l'espace et qu'on peut les comparer, eh bien on peut tester la théorie d'Einstein et on peut aussi tester ces autres théories pour savoir en fait qui c'est qui avait raison et comment la gravitation se comporte.
Mais il n'empêche que même si Einstein a tort ou s'est un petit peu trompé, cette distorsion du temps, on l'observe. Et ça, c'est quand même balèze. Nous vivons sur un duvet empêtré dans du chewing-gum.
C'est extrêmement difficile à s'imaginer ce que c'est le temps. Donc en fait, Einstein, lui, il a mis le temps et l'espace ensemble pour former ce qu'il appelle l'espace-temps, qui est en fait la fabrique de l'univers. Et après, il s'est dit, tous les deux sont malléables. Donc on arrive bien à s'imaginer un espace malléable avec un peu des creux et des bosses. Pour le temps, je pense qu'il faut faire un petit peu la même chose. C'est quelque chose qui peut s'étirer, c'est quelque chose qui peut se contracter en fonction de où on est et s'il y a de la masse ou pas.
Mais tout cela va-t-il me permettre de fabriquer une machine à remonter le temps ? Mettons que je me débrouille, j'augmente la gravité de mon lit. Je gagnerai quelques minutes de sommeil le matin. Ou allez hop, encore mieux, je vais prendre des vacances sur une planète où la gravité est beaucoup plus grande qu'ici. Et toc, enfin, et tic-tac.
Non. Non, parce qu'en fait, c'est pas que vous avez l'impression de vivre plus longtemps. Donc vous ressentez pas, oh, le temps passe plus longtemps, super, j'ai énormément de temps avant de mourir ou pendant mes vacances. En fait, le reste du monde a passé plus vite. Et donc vous êtes en décalage, en fait. Effectivement, ça a pas d'intérêt pour... Ça a un intérêt si on veut pouvoir faire l'expérience du futur, en fait. Vivre dans le futur en se disant, oh, j'aimerais bien voir comment la Terre évolue pendant 50 ans. Et puis revenir comme ça et voir où ça en est. Ça pourrait avoir un intérêt.
Ce qui est sûr, c'est que nous venons de passer une vingtaine de minutes ensemble. Pas au même moment, mais ensemble quand même. Et si vous n'avez pas tout compris, prenez le temps de réécouter cet épisode ou écrivez-nous. Notre adresse, microsciences@rts.ch, microsciences en un seul mot et au pluriel. Et partagez ce podcast, maintenant, si possible, sur le réseau social de votre choix. Notre équipe ne compte ni les heures ni les jours. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice, qui réagit au quart de seconde. Jérôme Nussbaum, habilleur musical et réalisateur, qui arrive si bien à suspendre le temps dans le studio. Andrea Glanville, attachée de production, qui n'a jamais besoin de tuer le temps. Et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique, qui sera ravie de vous retrouver dans un futur. À bientôt.